Chers amis de PFC, bonsoir et bienvenue à Romainville dans cette réunion du dimanche 3 mai 2015, Prepare for Change. Voilà, c'est la réunion des hyper motivés. S'il y en a que deux, ben, ils sont là. Et en même temps, j'inclus bien sûr tous ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas être là physiquement, mais qui font partie de ce groupe à distance. Voilà, on va faire un très rapide tour de prénom. Je vous passe mon interlocuteur.
Bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est Pierre, voilà, l'interlocuteur en question.
Et puis c'est Avi, voilà, le tour est bouclé. Même si ça fait un petit peu longtemps qu'il n'y a pas eu de réunion enregistrée, nous nous sommes posé la question de s'il fallait l'enregistrer. Et ma réponse était, si c'est une réunion de motivation ou de remotivation, alors, nous l'enregistrons et je pense en effet que ça pourrait être ça. Et puis, nous venons de méditer dans la méditation silencieuse. Une date est apparue dans mon esprit sans que je sache vraiment à quoi elle correspond. Et cette date, c'était le 23 mai. Voilà, donc est-ce que ça, c'est suffisant pour se remotiver ? Je ne sais pas. Le 23 mai, c'est un samedi. Je serai aussi en pleine activité. Alors moi, personnellement, c'est une période où l'énergie est lourde, poisseuse et visqueuse pour moi. Des groupes s'annulent, des choses qui marchaient ne marchent plus. C'est une énergie bizarre qui colle... Voilà, qui colle aux mains, qui colle aux pieds. Je me dis, est-ce que c'est un test ? Est-ce que c'est un test de motivation ? Est-ce que c'est une attaque de l'ombre ? Voilà. Tout ça, je ne sais pas. Voilà, mais il y a quand même des choses qui se passent. Alors, on va en parler. Hein. Pour cette mini-réunion, mais avec un maximum d'auditeurs. Je te passe la parole.
Oui, merci. Alors, concernant les dernières choses que j'ai vécues dont je voudrais parler, une chose importante. Le 25 mai, j'ai assisté à la conférence de Laura Marie à l'espace Lancelot au Jardin du Graal. C'était le 25 avril, c'est ça. Alors, je voudrais parler de ce que j'ai dit là-bas, enfin, l'écho que ça a eu et ce que j'ai vécu dans la semaine, entre le 20 et le 26. Alors, comme j'en ai déjà parlé une fois, je crois, ça fait déjà quelques temps que je vis très très mal... La défiguration du ciel par les chemtrails dans le quotidien. D'un point de vue, il y a à la fois une inquiétude sur la santé qui est réelle, parce que j'ai vu il y a assez longtemps une photo de deux cerveaux, cerveau avec chemtrail, cerveau sans, c'est à peu près ça. Ça m'a quand même pas mal alerté. Quand j'ai appelé mon médecin, elle m'a dit que c'était des peurs. Quand j'en parle autour de moi, j'ai des réponses diverses et variées et qui ne m'ont pas satisfait jusqu'à aujourd'hui. Et donc, j'ai fait une demande le vendredi, alors c'était le 19 avril, non le 18, le 20 c'était le lundi, le 18. Donc j'ai fait une demande, enfin j'ai dans mon travail spirituel, j'ai fait un travail par rapport à ça. Et Le lundi matin, je me suis levé très tôt pour profiter du bleu, du ciel bleu, et ça a fonctionné puisqu'il faisait très beau. Premier jour des vacances. Et en sortant, le midi, en sortant du métro, j'ai vu que donc ça commençait à venir, les avions commençaient à défigurer le ciel. Donc j'ai essayé de pas trop prêter attention. Et le lendemain, j'ai refait la même chose, je me suis levé très tôt. Pour pouvoir profiter au maximum de la beauté du ciel. Et ce qui s'est produit, c'est qu'on a eu une journée complète de ciel bleu. Pas un nuage, qu'il soit artificiel ou naturel. C'était une très très belle journée. Et que c'était le jour de mon anniversaire. Et que ça a duré 3 jours. C'est-à-dire que 21, 22, 23, ça a été un ciel bleu absolument parfait. Et que ça m'a frappé. Alors, comment dire? La probabilité que, évidemment, il y a 3 jours de ciel bleu, à ce moment-là, pour moi, elle fait sens. Évidemment, je ne peux pas le prendre autrement que comme un cadeau, puisque c'était mon anniversaire. Maintenant, je ne fais pas de lien de cause à effet, mais simplement, ce que je dis, c'est que certainement, il se passe des choses. Et j'ai parlé de ça, à la conférence de Laura Marie, parce que ce jour-là, c'était le jour de la marche mondiale sur le thème donc de la géo-ingénierie et des manipulations climatiques. Et j'avais deux personnes qui étaient à la place de la République. J'avais prévu d'y aller et je n'y suis pas allé pour aller finalement à la conférence de Laura Marie. Quand j'ai parlé de ça, ça a rencontré un écho assez saisissant dans la salle, parce que la plupart n'étaient pas du tout au courant de l'existence de ces choses, qu'ils ont été très choqués, certains, que beaucoup sont venus me voir, et qu'ils m'ont dit qu'ils avaient apprécié mon intervention. Et Laura Marie, elle, a évoqué l'existence d'êtres invisibles, qui s'appellent les sylphes, et qui mangent les chemtrails. Et ça m'a interpellé dans le sens où la veille, j'ai observé un avion qui pour moi répandait donc les gaz toxiques, mais dont la traînée disparaissait, on va dire, sur un peu plus loin qu'un avion normal, mais en tout cas qui disparaissait quand même. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant et donc je voulais témoigner de ça. Voilà. C'était une réunion très très positive. Comment dire, enfin, un des enjeux de la conférencière, ça a été d'adapter le discours au public. C'est-à-dire que ça, c'est un peu compliqué. En ce moment, je suis beaucoup dans cette réflexion-là, c'est-à-dire comment j'adapte mon discours, mon attitude à la personne que j'ai en face de moi, aux personnes que j'ai en face de moi. Et parfois, c'est un peu délicat parce qu'on... Comment dire, il y a cette question de... Alors Christophe Alain lui dit que il faut juste briller un peu plus que le niveau de la salle pour pas que ça fasse une sorte de... comment dire, fasse péter le fusible. Enfin, trop de lumière, ça... Hop là, ça va pas. Donc voilà, et en tout cas, je confirme que j'étais très très heureux de la rencontrer, parce que c'est quand même un sacré... pour moi, c'est un événement quand même, ce qui se passe. Ce sont des événements. Il y a beaucoup de choses qui montrent que on est en train de se retrouver, voilà. Et là, ça a été très très net. Alors ça donne un peu l'impression qu'on vit en quatrième dimension, dans la quatrième dimension au sens du film que vous connaissez. Après on peut le prendre au sens positif bien sûr. C'est assez troublant. Voilà.
Merci Pierre. Et puis, donc c'est Avi qui parle. Je me disais aussi tout à l'heure que si les énergies sont tellement lourdes pour moi et difficiles, c'est peut-être aussi le signe que l'événement est proche, parce que plus l'événement se rapproche et plus la résistance met de moyens à saper le moral des personnes comme nous qui travaillons pour la lumière. Et voilà, malgré cette purée de poids là, dans laquelle je semble vivre, je me dis tiens bon, tiens bon. Ne te laisse pas impressionner par tout ce qui se passe, des choses qui se cumulent comme ça. Et l'autre jour, je suis tombé sur un article où vraiment un journal économique qui s'appelle La Tribune fait vraiment du PFC pur. Alors ça, c'est vraiment une nouvelle assez puissante pour moi, parce que les termes employés sont waouh, sont ce qu'on dit à chaque réunion PFC au niveau financier, toute l'hégémonie des USA. Donc la nouvelle de base, c'est elle date du samedi 2 mai, donc c'est vraiment récent. Latribune.fr, Poutine ratifie un accord dotant les BRICS d'un fonds de 100 milliards de dollars. Donc, tout ce qu'on peut appeler les fonds de prospérité et puis la nouvelle économie mondiale, et même Cobra le confirme, viendra de la structure des BRICS qui est en train d'être mise en place. Et il y a une banque d'investissement chinoise, mondiale, qui a rassemblé plein de pays, y compris le Royaume-Uni, qui est ordinairement très proche des États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg, la Suisse, énormément de pays. Ils avaient jusqu'au 30 avril, je crois, ou 31 mars, pour se prononcer en faveur d'un soutien ou d'une adhésion à ce... Alors, les termes employés sont vraiment totalement nouveaux pour moi, hein, dans La Tribune, qui n'est pas spécialement quelque chose comme un média alternatif, hein, c'est même plutôt le contraire. Le président russe Vladimir Poutine a ratifié samedi l'accord portant sur la création d'un fonds commun de réserve pour les pays émergents des BRICS, signé en juillet par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Donc les initiales de ces cinq pays, ça donne BRICS, hein, mais il y a beaucoup plus de pays que ça aujourd'hui. Fin de la parenthèse. L'accord sur la création d'un fonds commun de réserve de change des pays des BRICS est ratifié, annonce un document du Kremlin, cité par l'agence de presse russe RIA Novosti. Ce fonds devrait être doté de 100 milliards de dollars, presque autant d'euros, selon les termes de l'accord signé par les cinq pays des BRICS au Brésil le 15 juillet 2014. La Russie compte participer à hauteur de 18 milliards de dollars, etc. Donc on a toutes les participations, mais il y a 41 milliards de dollars promis par la Chine. Selon la déclaration finale signée par les BRICS à Fortaleza, ces 100 milliards de dollars leur permettront d'éviter les pressions à court terme sur les liquidités et de promouvoir une plus grande coopération entre eux. Et c'est là que les phrases choc viennent. Ce fonds est aussi perçu par Moscou comme une autre solution que les institutions financières internationales dominées par les États-Unis et avec qui la Russie connaît de vives tensions depuis le début de la crise ukrainienne. Les BRICS, qui représentent 40% de la population et un cinquième du PIB de la planète, ont également signé en juillet un accord pour la création de leur propre banque, posant la première pierre d'une nouvelle architecture financière face à l'hégémonie occidentale. Donc là, on annonce clairement que les nouvelles structures financières se monte, hein, se fabrique, se met en place. Cette nouvelle banque dont le siège sera à Shanghai et qui est destinée à financer les grands travaux d'infrastructure sera dotée d'un capital initial de 50 milliards de dollars. Donc voilà, là, c'est la fin de l'article. Qu'est-ce que dit cet article ? Que face à l'hégémonie occidentale, il y a une nouvelle architecture financière qui est en train de se construire. C'est préparez-vous au changement économique, hein, pour moi, à 100%. Que le monopole basé sur le profit dominé par les États-Unis maintenant une autre architecture financière en face de lui. Et non seulement ça, mais cette architecture financière a reçu l'appui de plein de pays occidentaux. Hein, et même les États-Unis, en dernière minute, a dit on pourrait s'entendre pour entrer dans cette institution moyennant certaines conditions. Voilà. Ils ont vu que c'était entériné carrément, et donc en dernière minute, ils se sont joints d'une manière un petit peu détournée. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très récent, c'est sur latribune.fr. Et puis, j'ai noté aussi que lemonde.fr, qui n'est pas un journal alternatif, diffuse des nouvelles alternatives. Donc, ça, est-ce qu'il y a un changement, hein, dans les mass médias ? Est-ce qu'il y a un changement ? Est-ce que ces médias flairent l'alternative de société ? Parce que là, c'est l'alternative énergétique qui est évoquée par lemonde.fr. Sachant tous les trolls qui minent tous les forums concernant l'énergie libre et l'énergie alternative, dans la rubrique Planète du Monde, on peut lire la nouvelle batterie de Tesla, et Tesla, c'est pas n'importe quel nom, hein, peut-elle transformer l'infrastructure énergétique ? Donc, bien sûr, ils ont mis une question, hein, ça permet de laisser ouvert le débat et de pas être affirmatif. Mais Tesla, c'est une société, hein, qui est directement héritière du mode de pensée énergétique de Nikola Tesla. Et donc, voilà. Elon Musk, qui est le fondateur et patron de Tesla, est aussi celui qui est le directeur de la société moins connue qui s'appelle SpaceX, qui envoie des fusées vers la station spatiale internationale. C'est une société privée qui fait parler beaucoup d'elle en ce moment. Voilà, alors, donc Tesla, d'après cet article du Monde, n'a jamais été qu'un simple constructeur de voitures électriques. Mais aussi une société technologique dont la vocation est d'innover dans le domaine de l'énergie. Donc, le 30 avril, récemment, l'entrepreneur d'origine sud-africaine a fait un nouveau pas dans cette direction avec la présentation de Tesla Energy, une gamme de batteries dites stationnaires destinées aux habitations, aux entreprises et aux producteurs d'énergie. En gros, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des grosses batteries qui sont destinées dans les foyers et qui sont destinés à stocker l'énergie des panneaux solaires pendant la journée et la restituer aux heures où il n'y a pas de vent pour les éoliennes, où il n'y a pas de soleil pour les panneaux photovoltaïques, et qui pourrait permettre, en étant en réseau, bah, de se passer complètement d'un abonnement à un fournisseur national. Hein, c'est-à-dire qu'on va emmagasiner de l'énergie, et comme il n'y a pas du vent tout le temps, il n'y a pas du soleil tout le temps, et ben, au moment où il n'y en a plus, c'est la batterie qui fournit cette énergie. Et donc, ce fondateur de Tesla dit Le monde est principalement alimenté par les énergies fossiles. Nous devons faire quelque chose. Notre but est de transformer totalement l'infrastructure énergétique mondiale pour la rendre totalement durable et sans produire d'émissions de carbone, a-t-il lancé au cours d'une conférence de presse dans la banlieue de Los Angeles. Alors, M. Musk ne veut pas seulement accélérer la transition énergétique, il rêve d'une planète où toute l'énergie consommée proviendrait de ressources renouvelables. Je crois que ceci est à la portée de l'humanité, prophétise-t-il. Donc la solution pour lui, c'est le soleil qui se lève tous les matins et fournit une quantité incroyable d'énergie. Mais l'énergie produite par les panneaux solaires doit être stockée afin d'alimenter maisons et usines lorsque le soleil ne brille pas. Les batteries existantes sont chères, moches et peu fiables. Et elles fonctionnent sous différents systèmes qui ne sont pas compatibles. Il n'est aujourd'hui pas possible d'acheter une batterie qui fonctionne facilement. Voilà, donc Tesla Energy entend remédier à ce problème avec deux modèles. Pour les logements et les petites entreprises, la société va commercialiser le Powerfall. Les dimensions sont modestes, 1,30 m de haut, 86 cm de large, 18 cm de profondeur. Et son apparence est particulièrement soignée. Plusieurs couleurs seront même disponibles. Elle s'accrochera à un mur, à l'intérieur ou à l'extérieur. Deux versions seront vendues cet été aux États-Unis d'une capacité de 7 et 10 kWh. La principale surprise est venue du prix 3 000 et 3 500 $ hors frais d'installation. Voilà. Avant la présentation, un analyste réputé espérait une fourchette allant de 6 000 à 8 000 $ et les prévisions dépassaient souvent les 10 000 $. Donc, révolutionne un peu le marché. Parallèlement à ça, j'ai lu que IKEA se lançait dans la vente de panneaux solaires photovoltaïques qui ne seront pas en kit, contrairement à tout le reste des meubles ou des choses qui sont vendues, mais qui seront installées directement. Et la facture est aussi bon marché, hein, meilleur marché que la plupart des choses. Voilà. Donc les batteries de Tesla pourront être reliées à des panneaux solaires, mais aussi branchées sur le secteur. Dans ce cas de figure, elles permettront de réduire la facture d'électricité rechargées pendant les heures creuses. Elles alimenteront les habitations, usines et bureaux aux heures pleines. Voilà, il faudra cependant plusieurs années pour rentrer dans ces frais. Et un autre cas d'utilisation, c'est que ça représente un générateur de secours en cas de coupure de courant. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que le Power Pack de Tesla Energy est destiné aux entreprises et il a une capacité de 100 kWh. Alors, les batteries pourront être combinées à l'infini et puis ça peut par exemple alimenter un data center d'Amazon et plusieurs supermarchés. Voilà. Une centrale électrique détenue par une filiale d'Edison International testera également ses batteries. Donc, c'est à grande échelle et sur des puissances qui n'ont pas été jusqu'à présent ni expérimentées, ni connectables entre elles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tesla fait office de novateur et il construit actuellement une nouvelle usine basée Gigafactory, la plus grande usine mondiale de batteries lithium-ion. Ça sera quelque chose de très novateur. Alors, ce n'est pas de l'énergie libre. Ça peut fonctionner avec le réseau électrique, ça peut fonctionner en parallèle avec le réseau électrique. Mais ce qui est important, peut-être est-ce que ce serait la transition entre une énergie qui provient du pétrole et une énergie complètement propre. La partie intéressante, c'est que ça va stocker de l'énergie propre et on va s'éclairer, se chauffer avec une énergie non polluante. C'est ça le but de ces batteries. Et puis, la taille de ces batteries fait que c'est destiné à servir de générateur électrique à la maison en remplacement du réseau EDF complètement. Hein, c'est-à-dire qu'on a toute la puissance qu'on voudrait pour se fournir sans être branché à l'EDF. Alors, voilà, les coûts de fabrication par kilowattheure sont amenés à descendre beaucoup au cours des 10 prochaines années, et puis beaucoup de ventes seront réalisées en Californie, où l'énergie solaire représente déjà 5% de la production globale. Alors bien sûr, quand l'événement sera là, il n'aura plus besoin de tout ça, mais en même temps, ces directions-là, elles sont très prometteuses en termes de conscience, hein. C'est-à-dire que là, c'est plus l'État, hein, qui dirige, qui vend l'énergie et qui a la main mise sur le pouvoir. C'est chacun chez soi, avec son électricité, avec éventuellement ses éoliennes, sachant que en France c'est assez peu développé, mais en Allemagne il y a beaucoup de consommateurs qui se sont regroupés, qui ont acheté des éoliennes par groupe de 100, 200 personnes, qui ont leur propre réseau, qui partagent l'électricité, qui la revendent aux fournisseurs nationaux. Et qui se passe complètement du branchement au fournisseur national. Donc tout ça, c'est lentement un changement des mentalités et ça devient décentralisé. Plus il y a de choses décentralisées et plus le peuple reprend son pouvoir. Parce que l'énergie, c'est du pouvoir. Qui a le contrôle de l'énergie a le contrôle du pouvoir. Donc, lorsque le pouvoir, l'énergie revient dans les mains des personnes, à la base, il y a moins de dépendance. Hein. Et comme il y a moins de dépendance, des décisions indépendantes, justement, sont plus faciles à prendre parce qu'il y a moins de peur de ce pouvoir-là. Beaucoup de gens sont complètement, se sentent impuissants face à l'hégémonie des États, des gouvernements. Une personne toute seule ou même un groupe de 10, 20, 30 personnes, 100 personnes ne se sent pas de taille à provoquer des changements majeurs, alors que des infrastructures comme ça qui se répandent, qui deviennent personnelles et plus nationales, peuvent faire redonner le sentiment que nous avons un pouvoir qui peut être repris facilement, hein, avec ces choses-là. Voilà, et puis, sauf si tu veux dire quelque chose, il y a.
Ah, merci pour ces informations très intéressantes qui montrent l'émergence de l'énergie libre. Et peut-être qui arrive aussi quand on a vraiment commencé à chacun à son niveau à, comment dire ça, trouver sa propre énergie intérieure. Juste une petite parenthèse sur le Népal. J'ai appris il y a quelques jours les événements dans ce pays. C'était une simple réflexion. Parce que j'ai été très étonné d'entendre qu'il y avait eu un tremblement de terre au Népal. J'ai trouvé les deux mots ensemble, j'ai trouvé ça très étrange. Et j'ai du mal à croire que c'est une catastrophe si naturelle que ça. Voilà, simplement ce que je voulais dire.
Voilà, et puis. Alors, il paraîtrait qu'au moment de l'Atlantide, les personnes les plus spirituelles ont été averties de l'effondrement de l'Atlantide et se sont réfugiées au Tibet, sont figés au Népal. Le Népal est sur une faille sismique. Ça tremble régulièrement, mais je pense que les personnes très spirituelles déjà sont très haut dans les montagnes. Ce sont des temples. Il y a quelques romans initiatiques très puissants qui parlent de ces personnes comme des vrais maîtres qui ont le pouvoir d'agir sur la matière et qui sont là-bas, qui sont aussi des guides de sagesse pour l'humanité, hein, mais qui ne se montrent pas réellement. Alors, ça change encore dans les médias. Hein. Chaque semaine, je suis de plus en plus étonné. J'ai regardé des émissions d'Arte, dont la description, encore une fois, m'a rappelé ce qu'on dit dans ces réunions. Et ça fait quand même beaucoup. Hein. La Tribune, Le Monde, Arte. Hein. Arte, bon, joue le rôle d'avant-gardiste hein, pour moi dans dire des choses qui fâchent, hein, d'en dire des choses que ne dit pas TF1 ou Antenne 2, même les chaînes. Alors, ça s'appelle Vox Populi. Déjà, c'est super parce que c'est la voix du peuple. Hein, c'est le nom d'une émission sur Arte. C'est déjà bon signe. Hein. Ensuite, le titre de l'émission, c'est Le peuple et la démocratie. Encore un point de plus hein, direction, hein, dans la direction de le peuple voudrait que les gouvernements soient à son service plutôt que les gouvernements soient au service d'eux-mêmes. Hein. C'est comme chez les extraterrestres, il y a deux races. Il y a le service aux autres, qui sont les extraterrestres bienveillants, et le service à soi-même, qui sont les extraterrestres de l'ombre. Hein. Et donc, voilà ce qu'il dit. Alors accrochez-vous, hein, parce que c'est assez puissant. Le mécontentement a gagné l'Europe. Une grogne qui vise avant tout les élites. Autrement dit, la classe politique, ignorant les aspirations populaires, elle précipiterait la ruine économique du vieux continent. Assoiffés de pouvoir, les politiques auraient même un net penchant pour la corruption. Cobra, reviens les choper. N'en déplaise au gouvernement Pegida, en Allemagne, la moitié de la population est satisfaite du travail fourni par l'équipe Merkel. Dans le sud de l'Europe, en revanche, les élus ne sont pas exactement à la fête. En Espagne, en Italie, au Portugal ou en Grèce, moins d'un cinquième de la population fait confiance à ces gouvernements pour sortir leur pays de l'impasse. Alors que faire ? Se résigner à l'impuissance et sombrer dans la léthargie ou tenter d'agir chacun à son niveau pour faire bouger les choses. À Madrid, Europe, c'est le nom de l'émission, est allé voir comment le parti anti-austérité Podemos tente d'insuffler un changement radical au pays entier en partant de la base. Le mouvement de gauche invite en effet chaque citoyen à s'impliquer dans le processus politique, mais il est aussi possible de changer la donne sans pour autant fonder un parti. La preuve est des initiatives citoyennes en Serbie ou au Portugal qui montrent aux politiques ce qu'est la vraie démocratie. À la veille de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars 2015, Europe donne la parole à la Suédoise Ebba Ackermann qui a eu l'idée de créer un ministère des invitations afin d'aider les réfugiés à mieux s'intégrer dans son pays. Un exemple à faire suivre pour avancer dans la démocratie. Voilà. Alors, cette Suédoise, j'ai vu le reportage, elle met en relation des Suédois qui sont désireux d'aider l'intégration des immigrés et des immigrés qui veulent s'intégrer plus facilement, mais ils ne se connaissent pas du tout. Hein. Ils sont invités à un repas chez des gens qu'ils ne connaissent pas, et ceux qui invitent ne connaissent pas non plus les gens. Et c'est un des pays d'Europe qui a la politique d'accueil des immigrés la plus favorable, la Suède. La Suède, mais aussi la Finlande, et puis ces pays nordique. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, la démocratie gagne du terrain hein, avec ce petit reportage-là de 26 minutes. Alors, fait exceptionnel, sur Arte plus 7, ce documentaire est encore visible 32 jours. Alors que normalement, ça s'arrête au bout d'une semaine. Et ce qui se passe, c'est que certaines émissions et certaines des plus intéressantes concernant ces sujets qui nous concernent commencent à être disponibles très longtemps. Alors, il y avait une émission de fiction que j'ai diffusée sur Être Plus qui s'appelait « L'Europe au bord du crash » et qui représentait des personnes dans un avion en l'an 2060 et qui parlait de l'Europe comme une chose qui était terminée depuis longtemps. Et un conférencier en archéologie parlait de l'Europe telle qu'elle était et pourquoi ça a périclité, etc. Donc c'était une transposition du cataclysme un peu qui secoue l'Europe avec la Grèce, avec toutes les... Tous les pays qui sont maintenant en marge pratiquement de l'Europe. Donc, vous pouvez le retrouver encore quelques jours, et je vais encore 32 jours, hein, et puis je vais le mettre sur Être Plus, parce que c'est carrément du pain béni. Pourquoi c'est du pain béni? Parce que ça donne des idées, tout simplement. Les peuples et la démocratie marre de la corruption. Créez votre démocratie. Comment? Voilà comment. D'ailleurs, je pense que si quelque chose d'important se passe en Europe, ça viendra probablement de l'Espagne, peut-être de la Grèce aussi, qui est la vraie fondatrice de la vraie démocratie. Ils ont eu un régime qui a duré 200 ans, et il y avait des élections, je crois qu'il y avait à un moment des élections chaque jour. Et ils faisaient ça... pour qu'ils ne soient pas corrompus pendant la nuit, hein, les élus. Et puis, en Espagne, il y a énormément d'assemblées populaires qui se réunissent régulièrement, qui prennent des décisions régulièrement. Ils font un travail de fond extrêmement puissant. Hein, et je dirais que les Espagnols s'entraînent à fonctionner sans chef. Et eux, ils sont extrêmement motivés. Hein. Le mouvement des indignés est né de là-bas. Voilà. La Grèce, y a Syriza, mais en Espagne, ça se passe beaucoup plus au sein du peuple. Donc, dans ce reportage, on parle de l'Espagne et de ce qui s'y passe. Hein. C'est intéressant à écouter. Et puis, j'ai encore mis en ligne d'autres... Il y a tellement de choses là sur Arte en ce moment. Voilà, j'ai encore mis en ligne sur Être Plus d'autres émissions qui vont durer plus que 7 jours. Hein. Parce que quand une émission se périme au bout de 7 jours, le temps que j'en prenne connaissance et que je la diffuse... C'est pratiquement les derniers jours pour la voir. Donc, ça, c'est intéressant. Je vais essayer de me rappeler brièvement, mais rapidement, de ce que j'ai mis en ligne, parce que ça, c'est la plupart, oui. Voilà, j'ai mis aussi en ligne une information... par David Wilcock, si vous n'avez pas entendu, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Fabuleux, ça s'appelle sur Être Plus, Information exopolitique par David Wilcock. C'est un informateur de David Wilcock qui s'appelle Corey, qui est vraiment dans les sphères exopolitiques, mais plongé en plein dans la soupe. Dans la soupe des extraterrestres, du système solaire, de toutes les races bienveillantes, malveillantes, et qui a été cité par Cobra, et ça lui donne un aval, je dirais. Il a été cité parce qu'il publiait des informations sur un blog dans lequel Cobra a lui-même soutenu Corey, C-O-R-E-Y, sous son pseudonyme, hein, il y avait un pseudonyme, et il a dit que même si tout n'était pas à 100% exact, beaucoup de ces informations étaient justes. Donc ça donne une profondeur de champ à cet article, et donc c'est aussi l'informateur de David Wilcock, ce qui fait un lien au final entre David Wilcock et Cobra.
Alors, très intéressant, parce que justement, à la conférence de Laura Marie, quelqu'un a posé la question de savoir si elle connaissait Cobra et la méditation de libération planétaire. Elle a dit que non, mais Laura Marie connaît très bien David Wilcock, puisqu'elle a été à sa conférence aux États-Unis l'année dernière, et qu'elle a été elle-même interviewée par, j'oublie son nom, Stéphane quelque chose, en Vibra-conférence. Les Vibra-conférences de, comment s'appelle-t-il ?
Oui.
Ça va nous revenir. Et moi, c'est la première fois que j'ai entendu Laura Marie, c'est sur cette Vibra-conférence. J'ai été fasciné par ce que j'ai entendu. Et elle a essayé de résumer en 2 heures, c'est quand même long, 2 heures, ce qu'elle a reçu comme information par David Wilcock, donc... sur toutes ces questions exopolitiques, justement. Et je suis content d'entendre que Cobra et David Wilcock auraient des références en commun. Et juste aussi, je voulais dire, tout à l'heure, tu parlais d'émissions qui détonnaient. Alors, j'ai une amie qui m'a montré une émission, non pas sur Arte, mais sur, je crois que c'est France 3, c'est l'émission de Tadi, Ce soir ou jamais. Alors c'est un peu plus terre-à-terre hein, que ce que tu viens de dire là, mais c'était quand même impressionnant. C'est une femme, c'est Fatou Diome, il me semble son nom, c'est un écrivain. De quel pays est-elle? Je ne sais pas, Afrique Noire c'est sûr. Et alors elle a, c'était une émission sur l'immigration. Et alors elle a donné une leçon, mais alors impressionnante, à notamment à un interlocuteur, pas très favorable à l'immigration, on va dire, même un Italien, un Irlandais, un historien et politicien, et un historien et néerlandais, bon. Qui était pour la fermeture des frontières, enfin l'intransigeance, j'ai envie de dire, qu'on peut retrouver dans certains partis d'extrême droite en France. Et donc, ce qu'elle dit, c'est vraiment, je vous invite à l'écouter cette émission, parce qu'elle est encore disponible sur Internet, bien sûr. Je crois que c'est celle du 24 avril. J'ai un petit doute sur la date, hein, mais je sais que c'est 20 quelque chose avril. Et donc c'est Fatou Diome. Et à chaque fois qu'elle a parlé, c'était à la fois ferme et en même temps non agressif. C'était juste un modèle. Voilà, je voulais parler de ça.
Merci. Alors, information exopolitique par David Wilcock. Je vais lire juste quelques phrases parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Alors, mon ressenti, c'est qu'il y a longtemps que je n'avais pas lu autant d'informations, une telle densité d'informations complètement nouvelles sur la galaxie, le système solaire, avec autant de détails. Pour moi, il s'agit de divulgation douce. La divulgation douce, c'est on monte la température du bain, hein, sans qu'on s'en aperçoive, on est dans un bain de plus en plus chaud. C'est pas l'histoire de la grenouille hein, qui boue sans s'en rendre compte, qui est cuite, mais... ils ont fait un sondage dans la rue. Et dans la rue, il y a plus de 50% sans filtrer les réponses, hein, c'est-à-dire en publiant toutes les réponses de tous les interviewés, il y a plus de 50% des gens qui passent dans la rue qui croient à une existence extraterrestre. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on pourrait nous faire croire. Hein. Alors, il y a une sorte de sensibilisation, j'ai l'impression, en ce moment. Et peut-être est-ce le fruit des forces de la résistance, parce qu'il y a de plus en plus de choses qui, voilà, qui se passent. Et puis, dans ces informations exopolitiques, on nous explique que certaines météorites, apparemment, qui sont apparues dans les cieux, sont simplement des vaisseaux qui ont été détruits lors de guerres galactiques et qui sont tombés sur la Terre. Alors, quelques petites phrases de cet article. Il parle de l'énergie du point zéro. Il dit, lorsqu'on refroidit quelque chose en dessous 278 degrés Kelvin, qui normalement est le zéro absolu. Je crois que le zéro absolu, c'est 273. En vérité, non. Là, il y a une imprécision. Le zéro absolu, c'est 0 degré Kelvin. Et moins 273,16 degrés Celsius, c'est le point zéro au-delà duquel on ne peut pas descendre. C'est-à-dire, c'est l'arrêt total de la rotation des électrons, des atomes. Plus rien ne bouge. Et on ne peut pas descendre en dessous parce que c'est le zéro Kelvin. Donc là, il y a un mélange des deux unités. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Donc, en dessous d'une certaine température, donc le zéro Kelvin, je crois, il ne devrait plus y avoir de mouvement ni de chaleur, car c'est le zéro absolu. Au lieu de cela, il y a énormément d'énergie. Un volume d'espace de la taille d'une tasse de café contient suffisamment d'énergie pour faire bouillir instantanément toutes les eaux de tous les océans. Et ça, bon, c'est connu que l'énergie de la matière est énorme. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matière pour avoir énormément d'énergie, hein, parce qu'on connaît la bombe atomique. Alors, bon, j'essaie de trouver des choses pas très longues. Voilà, l'extraterrestre humain Padma Sambhava serait venu de l'espace dans un œuf. Il a enseigné aux moines tibétains la façon de transformer leur corps en lumière. Cela prend 7 jours. Le corps rétrécit jusqu'à la taille de 9 pouces et des arcs-en-ciel apparaissent à l'endroit où se trouve le corps. La forme humaine et le tétraèdre révèlent la forme originale ou la géométrie primaire du Créateur. Le Créateur se trouve dans toute chose en tant que fractal de la forme originale. Voilà, donc nous sommes pure énergie, hein, qui sommes dans un corps et le corps est dans l'esprit et l'esprit n'est pas dans le corps, contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Le corps est un sous-ensemble puisque l'esprit est bien plus vaste que le corps et bien plus puissant aussi que le corps.
Alors, l'histoire du sage qui arrive dans un œuf, ça me rappelle une tapisserie, enfin une gravure, une peinture médiévale qui est souvent, enfin qu'on montre en exemple pour dire que avant qu'on prenne des photos, les ovnis étaient déjà représentés dans les peintures, même très anciennes. Et donc, je crois que c'est une fresque qu'on voit qui est en Europe de l'Est. Et on voit deux personnages, dans les sortes de deux, comme tu dis là, sur les coins en haut à gauche et en haut à droite de la fresque. Donc, ça m'a juste fait penser à ça quand tu as dit des œufs, c'est très, très curieux.
Voilà, et puis l'œuf rose, cette fois-ci, alors que j'ai du mal à visualiser un œuf rose qui m'entoure, ordinairement, c'est pas très simple à la fois de visualiser des couleurs, des formes et de s'imaginer à l'intérieur. Mais aujourd'hui, j'y suis arrivé un peu plus que habituellement. Pareil pour le vortex arc-en-ciel. Lors de la méditation de libération planétaire, c'était un peu plus visible. Je me suis dit que l'énergie devait être plus favorable là. ce soir-là. On avait l'appui de nos frères pléiadiens. Alors, encore un documentaire avant-gardiste de Arte est encore disponible jusqu'au 21 juillet 2015. Donc, là aussi, j'ai l'impression qu'ils font des efforts sur la durée de visualisation pour que ça ait plus de portée, leur documentaire. Et ça s'appelle « Libre-échange » ou « Libre-citoyen », hein, en parlant du traité international que les États-Unis négocient dans le plus grand secret avec l'Europe pour le plus grand profit des compagnies privées hein, qui pourront remettre en cause certaines lois sans passer par les tribunaux et les magistrats, mais avec des tribunaux privés, des comités d'arbitrage privés, ce qui fait que voilà, ça s'appelle le TAFTA, hein, et puis on ne veut surtout pas que ça s'ébruite, et toutes les conversations et toutes les négociations se font à huis clos, ce qui est très très louche. Hein, voilà. Alors, Arte dit, le traité transatlantique qui se négocie actuellement entre Bruxelles et Washington suscite les inquiétudes, des choix politiques fondamentaux seront-ils sacrifiés sur l'autel du libre-échange ? Avec cette enquête fouillée qui interroge économistes orthodoxes ou contestataires, opposant au TAFTA et simples citoyens, les enjeux de ce traité capital nous sont parfaitement exposés. Voilà, donc c'est à voir hein, jusqu'en juillet. Ça fait partie de l'éducation populaire. Aujourd'hui, notre devoir, c'est de nous éduquer nous-mêmes pour ne pas dépendre d'une éducation fortement biaisée. Et à ce propos, je voudrais saluer la radio Ici et Maintenant qui, par l'intermédiaire d'un nouvel animateur, Sébastien Maillard, de mémoire, qui a fondé le site Vers une nouvelle constitution française. C'est VUNCF. Hein, c'est les initiales de Vers une nouvelle constitution française et qui a une très belle éloquence et qui donne des cours d'éducation, enfin non, qui veut inciter à ce que des cours d'éducation populaire se créent et qu'il essaye de rassurer les multiples personnes qui se sentent complètement incapables d'écrire des lois. Et il dit que notre but, c'est d'arrêter de confier l'écriture des lois à des gens qui s'en servent pour leur profit et que rien ne pourra changer avant ça. Et donc, ça passe par une nouvelle constitution. Et Étienne Chouard a déjà mis en place certaines assemblées constituantes. Et en fait, il a raconté comment ça se passait. La plupart des gens qui pensent être incapables, au bout de 2 ou 3 heures, avec des petits groupes de 4 ou 5, font des textes sur des sujets bien précis qui tiennent tout à fait la route. Et en vérité, sur quoi ils discutent, sur des choses de la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il faudrait inclure dans une loi, qu'est-ce qu'il faudrait interdire dans une loi, le fait qu'il y ait de la diversité, et puis de la... que tout le monde ne soit pas forcément d'accord, qu'on utilise le principe du consensus, hein, c'est ça qui domine en Espagne, hein, dans toutes les assemblées populaires, c'est toutes les décisions sont faites par consensus. Et ce que Sébastien Maillard dit est extrêmement intéressant, c'est que tous les systèmes de logiciels libres sont basés sur des décisions prises par consensus. Linux, toute la démocratie des indignés, Firefox, Apache, tous les systèmes, et ils sont nombreux, hein, de logiciels libres, non seulement sont gratuits, mais ne sont jamais faits autoritairement. Il n'y a pas de système d'autorité qui dit on va faire ça et pas autrement. Comme Wikipédia. Wikipédia est un système basé sur le consensus. Il y a des règles qui se sont élaborées, bien sûr, mais approuvées par la majorité, approuvées par le consensus. Donc c'est très intéressant parce que Sébastien Maillard accueille des auditeurs qui sont contre ce système ou qui disent « ça n'a aucune chance de marcher ». Et il dit « moi je suis intéressé à parler à des gens qui ne sont pas d'accord avec moi ». C'est déjà une preuve d'ouverture. Hein. Parce que c'est cela qui provoque les discussions les plus intéressantes. Waouh ! Quand quelqu'un est convaincu de quelque chose de nos jours et dans les systèmes conservateurs qu'on connaît, il ne veut surtout pas de contradiction. Hein. Parler d'énergie libre à un scientifique qui est convaincu de la loi de la thermodynamique, qui est inviolable a priori, et il ne supportera pas que ce soit contredit. Hein. Et donc quand on supporte la contradiction et quand on l'encourage, j'y vois une ouverture d'esprit, parce que si tu n'es pas d'accord, ok, on en discute, viens, contredis-moi, et moi je donnerai mes arguments. Mais tu ne peux pas juste dire c'est nul et t'en aller sans donner tes arguments. Et ça, c'est le système des indignés de la démocratie populaire. Tu ne peux pas dire « je ne suis pas d'accord » sans dire « pourquoi ». Pour moi, c'est le système qui va fédérer les humains de la nouvelle Terre. T'as le droit de, ton opinion est toujours la bienvenue, que tu sois d'accord ou pas. Tu peux alimenter la controverse, parce que de la controverse naît la diversité et puis naît les choses auxquelles on n'avait pas pensé lorsqu'on a émis cette proposition en particulier. Donc ça a lieu deux fois par semaine, je ne me rappelle plus les jours, mais je pense que c'est sur le site de Sébastien Maillard, vers une nouvelle constitution française. Il y a beaucoup de documents. Il y a entre autres une Agora, hein, qui est un document fondateur, qui est accessible en PDF. Voilà, de temps en temps, je me couche très tard, super fatigué, mais il y a Sébastien Maillard qui est en direct sur ici et maintenant, et j'arrive pas à éteindre. Hein, et vraiment, je profite des pauses musicales qu'ils font pour éteindre, parce que sinon, je n'arrive pas à couper la phrase au milieu, tellement c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça part d'un autre système de pensée, hein, vraiment d'un système de pensée où nous nous réapproprions ce qui n'aurait jamais dû être donné à ceux qui l'utilisent pour leurs intérêts.
Oui, justement, Avi, tu m'as ôté les mots de la bouche parce que j'ai pensé à Étienne Chouard il y a 20 minutes et je l'ai perdu, mais je l'ai retrouvé grâce à toi. Parce que j'ai une amie qui m'a appelé hier et qui m'a assisté à une conférence de Olivier Danès à Auray, qui parle des maîtres de sagesse, et il a aussi délivré un certain nombre d'informations, notamment sur... il a parlé d'Étienne Chouard, hein, comme quoi Étienne Chouard avait été en train de mettre en place l'écriture d'une constitution, c'est ce que j'ai entendu, et que, comme tu l'as dit à l'instant, c'est une condition sine qua non pour récupérer... le pouvoir, pour faire récupérer au peuple le pouvoir. Étienne Chouard est beaucoup cité sur Meta TV, avec Tepa et Tepa justement. Alors, tu parlais de l'Europe et j'ai repensé aussi, j'ai eu un flash, j'ai repensé à une émission que j'ai vue de lui. Alors, comme tu viens d'exprimer, je n'arrive pas à arrêter l'émission quand je commence à l'écouter, tellement c'est intense. Il a fait un débunkage d'un documentaire de France 2 sur l'Europe qui se présente comme une fiction de ce que deviendrait la France si elle sortait de l'Europe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le documentaire fictif reprend des images réelles tout en disant que c'est ce qui se passerait si la France sortait de l'Europe. Et donc,
respecte pas, passe beaucoup de temps à dire, mais justement, c'est déjà le cas, parce qu'on est dans l'Europe. Mmh. Voilà, et donc je vous invite à regarder ce débunkage qui est à la fois sérieux et surtout très drôle.
Voilà, on va bientôt terminer, parce qu'il est déjà un petit peu tard. J'ai oublié de faire un chaleureux coucou à Lina. J'espère que tu entends mieux, Lina, puisque j'ai essayé qu'on parle un peu plus proche du micro pour toi, pour que tu puisses avoir un confort d'écoute plus grand. Je voudrais terminer en citant l'effort important que je salue, que fait Antoine Valli, à propos de Prepare for Change, du site mondial, et d'un site francophone qu'il a créé, dont il nous a passé en quelque sorte les clés, c'est-à-dire les mots de passe administrateurs pour créer des articles, que je n'ai pas eu encore l'occasion d'exploiter. Et donc, j'ai fait un article sur Être Plus pour relayer ça. Ça s'appelle « Arrestation imminente, information importante à propos de l'événement ». Et donc, il a, ou quelqu'un d'autre, a créé un flyer qui me semble assez sympa, parce que exprimé en des termes simples, il y a écrit en gros « urgent de point arrestation imminente ». C'est paru aussi sur Facebook, hein. Donc il y a trois colonnes. La première colonne, ce qu'il se passe, voilà, la plupart des gouvernements manipulent. Que faire? Nous allons créer une transition pacifique. Et la troisième colonne, c'est tout va bien se passer, l'humanité entre dans un âge d'or, mais d'abord on doit nettoyer. Et donc, et ça donne le lien sur ce site en français qui s'appelle PFC Événements. En un seul mot, sans accent, .blogspot.com. Et donc, dans ce site PFC événements, déjà ce flyer est très intéressant parce que il donne dans chaque colonne quatre informations. Donc, c'est simple à lire, c'est court. C'est un flyer qui peut se plier en trois et se distribuer dans la rue. Sachant que 50% des gens croient aux extraterrestres dans la rue, bah, y a des chances qu'une séance de flyering avec ce flyer-là ait des retombées intéressantes. Il est à noter que sur Facebook, bah, le groupe est de plus en plus grand, presque 1600 personnes. Voilà. Mais donc, c'est intéressant de parcourir ce site pfcevenement.blogspot.com. Parce qu'il y a des grandes rubriques très simples à lire. Qu'est-ce que l'événement? Méditation hebdomadaire synchronisée de libération. Comment se préparer? Donc Antoine Valli a synthétisé des articles avec des images, a simplifié les choses importantes. Plan pour l'événement. Voilà, enregistrement audio du groupe de Paris, celui que vous entendez en ce moment. Et donc, on peut, nous, francophones, introduire des articles, rajouter de l'information dans ce site. C'est ce qui manquait peut-être jusqu'à maintenant, un site qui donne de l'information en français à 100%, compréhensible. Et alors, pour moi, ça vient parler de la place de la France au moment de l'événement. Que nous avons une place importante à tenir et que cette place, elle se passe si nous avons un site qui fédère toutes les informations et qui nous permet de nous former, de nous enrichir. Voilà, puis un dernier mot à propos de la motivation. Alors, il y a eu des groupes où j'étais pas là, il y a eu des groupes où j'étais là et personne n'est venu. Aujourd'hui, nous sommes deux. Moi, j'ai aucun reproche à faire à personne, bien sûr. Mais je me disais, est-ce que l'événement ne se rapproche pas, vu la densité de l'énergie que je ressens, mais la lourdeur aussi, l'épaisseur de cette énergie en ce moment. Moi aussi, comme Pierre, j'ai pu remarquer qu'il y avait des cieux d'une clarté exceptionnelle il y a quelques jours. Je me suis dit, tiens, ça c'est nouveau.
Aujourd'hui d'ailleurs.
Voilà, donc, oui, aujourd'hui aussi. Donc, la semaine prochaine, moi j'accueille Dhyaneya, qui est une walk-in pendant 4 jours. Donc, c'est une réunion hautement spirituelle. Donc, un walk-in, c'est une âme hautement spirituelle qui vient s'interchanger avec une âme sur un corps vivant lors d'une NDE ou lors d'un accident. Avec le parfait accord des deux âmes pour éviter les longues années de préparation qui passent par l'incarnation classique. Et donc Dhyaneya est une femme d'une valeur spirituelle énorme pour moi. Je la connais depuis quelques années et elle a beaucoup d'enseignements, elle a beaucoup de photos, d'objets filmés dans les cieux à nous montrer, de projections qui se passent près du mont Bugarach où elle habite mais qui ne se passent pas chez nous. Parce que les cieux sont très voilés, exactement.
N'est-ce pas?
Voilà, donc c'est ce qu'elle dit aussi. Hein.
Ah, oui.
Et donc, ça sera 7, 8, 9, 10 mai 2015, chez moi, ici à Romainville. Ce qui fait que ça compromet un petit peu la possibilité d'avoir une réunion. Mais vous êtes bienvenue à participer à ces événements. C'est très peu cher, hein, c'est genre 5 euros par jour. Et puis elle donnera des séances individuelles pour ceux qui ont besoin d'ajustements vibratoires, des nettoyages énergétiques. Ça se passera aussi ici, hein, il faut réserver à l'avance. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il n'y aura pas de réunion à Romainville cette semaine-là, c'est-à-dire le 9 mai, merci. Et
le 10.
Voilà, non, ce sera plutôt le 10, hein, le dimanche 10, ouais. Je me disais que ça colle pas le 9. Voilà. Par contre, le week-end d'après, je serai disponible. Et j'aimerais qu'on puisse saisir cette occasion pour faire une réunion de remotivation en se centrant à 100% sur PFC et puis en nous rappelant l'utilité physique d'un groupe de soutien. C'est-à-dire que 1600 personnes sur Facebook ne remplaceront jamais un groupe qui se forme pour soutenir les populations au moment de l'événement. Hein. Un groupe qui se forme physiquement et qui évoque, se rappelle de tout ce qu'on fait avant l'événement, pendant l'événement et aussi après l'événement. Et puis la motivation interne, le soutien entre nous et le soutien pour les nouvelles personnes qui arrivent. Voilà, tout ça, ça me semble important pour que le moment voulu, nous puissions répondre présent. Voilà, c'est sur ces paroles que on va terminer ce groupe. Ouais. Tu as quelque chose à dire?
Très, très rapide, le mois de mai, ça va être très spécial, parce qu'il y a beaucoup de ponts, il y a beaucoup de jours fériés, c'est une ambiance très, très particulière. Et j'ai envie de rajouter que le 13 mai, c'est une date importante, parce que c'est une date où la Vierge Marie est très présente.
Voilà, et puis 23 mai, mystère, se passera-t-il ou pas quelque chose, nous en discuterons le 24 mai, hein, très probablement, puisque, voilà, alors 10 mai, 17 mai, voilà, 17 mai, réunion ici, et puis 24 mai, il y aura certainement une autre réunion. 25. Voilà. Chers amis de PFC, à très bientôt. Préparez-vous à l'événement. L'événement peut arriver à tout moment.